Alors, un élément en préambule sur la deuxième internationale, je vais me consacrer plutôt à la seconde internationale à proprement parler, en fait, celle qui s'est créée en 1889 et qui se termine en gros vers 1919, pour faire la continuité donc avec ce qu'avait dit Sophie pour la première et puis avec la suite qu'on aura plus tard des troisième et quatrième internationales. Mais il faut savoir que la deuxième internationale, elle a scissionné et elle s'est en partie reconstruite pour donner l'internationale ouvrière socialiste, puis aujourd'hui l'internationale socialiste. Mais je dirai un mot de ça en conclusion, mais c'est pas là-dessus que je vais insister. Alors, en introduction, l'internationale ouvrière, appelée aussi parfois internationale socialiste ou deuxième internationale. Elle est fondée notamment à l'initiative d'Engels en 1889. Donc je rappelle que Marx est mort à cette époque, hein, donc il ne voit pas la création de cette deuxième internationale. Elle naît d'un rassemblement des partis socialistes et ouvriers d'abord européens, donc il y a 20 pays représentés au départ, qui sont les partis dits social-démocrates et qui sont fortement influencés par les idées marxistes. Comme le disait Sophie à la fin de son topo sur la première internationale, on retrouve dans l'internationale ouvrière un rapport au parti et à la question du réformisme versus communisme, alors que la première internationale, elle s'était fondée plutôt sur des bases qu'on peut dire syndicales. Alors, cette internationale, on s'y intéresse généralement surtout pour sa fin, qu'on appelle la faillite de la deuxième internationale et qui arrive en gros au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, l'idée, hein, c'est pas d'aller directement à la fin, mais c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que cette faillite, elle intéresse. Eh bien, parce qu'elle est due à la trahison des partis social-démocrates officiels, et notamment du parti allemand, le SPD, qui était à l'époque le plus gros parti représenté dans la Seconde Internationale. Et du coup, c'est cette trahison qui intéresse à la fois les acteurs de l'époque et à la fois les historiens d'aujourd'hui. Et elle donnera lieu notamment à un ouvrage, à une brochure écrite par Lénine qui s'intitule La faillite de la deuxième internationale, dans laquelle il écrit notamment dans son avant-propos la formule suivante. Pour formuler la chose d'une manière scientifique, c'est-à-dire du point de vue des rapports entre les classes de la société contemporaine, nous devons dire que la plupart des partis social-démocrates, avec à leur tête en tout premier lieu le plus grand et le plus influent des partis de la deuxième internationale, le parti allemand, se sont rangés du côté de leur état-major général, de leur gouvernement, de leur bourgeoisie, contre le prolétariat. Alors les choses sont claires, la faillite, hein, de la deuxième internationale n'est pas seulement l'état de fait de l'interruption des liens internationaux entre les partis socialistes des pays belligérants, elle est due à l'accord de ces mêmes partis pour entrer dans la guerre. C'est une trahison que Lénine, dans son texte, met en rapport avec les différentes résolutions qui ont été prises lors des congrès qui ont ponctué l'international et sur lesquelles je vais revenir après, et notamment la résolution du congrès de Bâle en 1912, puisque ce congrès déclare, selon une formule désormais célèbre, guerre à la guerre et adopte un manifeste en ce sens. Alors, pour préciser un peu les différents axes ou les différentes problématiques qui se posent tout au long de cette seconde internationale, mais qui se cristallisent dans cette faillite, on peut évoquer différents axes que je vais ensuite reprendre à la faveur, hein, des différents congrès que je vais résumer. Donc les axes problématiques de cette deuxième internationale, c'est le rapport au nationalisme versus internationalisme. Le rapport à la question coloniale, qui est liée à la première question, le rapport au sein des pays membres et notamment des pays les plus importants dans l'international aux bureaucraties syndicales et le centrisme qui en découle. Et puis, on le verra, la distinction aussi ou le hiatus qui peut exister entre d'un côté des textes ou une théorie qui sont très fortement marqués par le marxisme, et puis de l'autre, une pratique qui l'est, elle, beaucoup moins, et les problèmes que ça pose. Alors, pour étudier ces différents axes, je vais revenir d'abord sur le contexte de la création de l'internationale ouvrière un peu rapidement. Comme l'avait rappelé Sophie, la première internationale, elle est déchirée par le conflit entre les anarchistes et les marxistes. Elle prend fin en 1876, après notamment l'écrasement de la Commune de Paris, donc de 71, pendant lequel de nombreux militants de la section française de l'AIT perdent la vie. En parallèle de ce qui va se passer ensuite, et notamment de la Grande Dépression qui se déroule donc de 1873 à 1896, on voit toujours plus à cette époque la transformation des moyens de production et de la société par le capitalisme. On voit notamment apparaître de nouveaux secteurs comme la chimie, l'automobile, l'électricité, à côté des industries plus classiques. Le nombre de travailleurs industriels augmente. Et on peut aussi dire que le syndicalisme se développe tant par le nombre de syndiqués que par la création de fédérations d'industrie. Alors, on a ce contexte de Grande Dépression, on a la fin de la Première Internationale, mais malgré tout, avec le nouveau contexte économique, on peut dire qu'à la fin du 19e et au début du 20e, le mouvement ouvrier devient de plus en plus massif et organisé, puisqu'on va voir apparaître des partis et des syndicats de masse. Le principal parti social-démocrate, qui est le SPD, donc allemand, se réclame lui-même de la révolution. Et donc, la croissance des organisations entraîne une croissance des appareils. Donc, on retrouve beaucoup de militants, et notamment en Allemagne toujours, à des postes de responsabilité. Beaucoup de militants deviennent des permanents. Et on a vraiment la croyance que la révolution est imminente. Et cette conviction, elle est renforcée par les crises successives jusqu'en 1895 et par les progrès constants du mouvement ouvrier. Donc c'est dans ce contexte que naît l'Internationale ouvrière, dont l'histoire se fait autour de 9 congrès, dont je vais résumer un peu les enjeux en regroupant certains pour que ce soit pas trop ennuyeux. Alors, les congrès. Donc les 4 premiers congrès, ils actent l'Internationale ouvrière et sa fondation sur le principe de la lutte des classes. Donc le premier, il a lieu en 1889 à Paris. C'est le congrès fondateur de l'Internationale. Les partis socialistes d'Europe s'y réunissent notamment à l'initiative d'Engels pour établir les conditions à travers lesquelles ils peuvent travailler ensemble. Alors, ce qui est notable, il y a deux choses notables à ce congrès. La première, c'est qu'on y retrouve des anarchistes. Alors même qu'il y avait eu des divergences profondes qui avaient été actées avec l'AIT, mais ces anarchistes vont être vite exclus du fait même de ces divergences, et notamment parce qu'ils considèrent que la politique, elle est plus source de division des travailleurs et travailleuses qu'autre chose, et ils se réfèrent plutôt à une lutte syndicale. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est qu'un des acquis de ce congrès, c'est la décision d'organiser une manifestation internationale en faveur de la journée de 8 heures. Cette manifestation, elle aura lieu le 1er mai 1890 et elle fait suite à la campagne lancée aux États-Unis par le syndicat de la Fédération du Travail. Et en fait, c'est la naissance de la Journée internationale des travailleurs. Alors, les deux congrès suivants, donc le congrès de Bruxelles en 1891 et celui de Zurich en 1893, ils adoptent respectivement la lutte des classes comme principe fondamental et des conditions d'admission dans l'Internationale ouvrière, qui sont formulées de la manière suivante. Le Congrès reconnaît comme membre du Parti socialiste démocratique révolutionnaire international toutes les organisations et sociétés qui admettent la lutte des classes et la nécessité de socialiser les moyens de production et qui acceptent les bases des congrès internationaux socialistes. Alors, ce qu'on peut déjà noter au terme de ces 3 premiers congrès, c'est que il y a vraiment cette idée que la lutte des classes est au fondement de l'Internationale ouvrière. Pour autant, les déclarations qui sont votées en congrès, elles n'ont déjà qu'une valeur, qu'on pourrait dire une valeur morale, puisque dans tous les cas, chaque section, elle possède une autonomie totale. Alors, le congrès de, donc le 4e congrès, c'est le congrès de Londres en 1896. Qui est intéressant notamment parce que deux sections polonaises s'y affrontent sur la question de l'indépendance de la Pologne. Et on va retrouver du coup une résolution politique hein, qui est notamment ajoutée par Kautsky et qui sera adoptée, et qui est celle du plein droit de libre détermination de toutes les nations, qui fait office de compromis au moment de l'affrontement entre les deux sections polonaises, mais qui n'est pas vraiment et pleinement discutée. Alors, c'est là que, du coup, On peut déjà noter que le hiatus dont je parlais au début, on a une internationale ouvrière qui adopte au cours de ses 4 premiers congrès des résolutions qui sont clairement révolutionnaires. Mais déjà, on peut dire qu'il existe un fossé entre le contenu des textes et la pratique des membres des internationales. Et c'est un des enjeux forts de l'internationale ouvrière, comme ça l'est aussi souvent dans nos organisations et dans les organisations d'extrême gauche de manière générale. C'est l'écart entre les textes, leur contenu, qui est souvent radical et révolutionnaire, et puis la pratique, qui est souvent plus molle et qui est souvent plus une pratique de compromis. Ça doit nous interroger, à mon avis, sur nos propres pratiques, puisqu'on voit que le rapport au texte et aux élaborations peut n'être qu'un leurre quand la pratique ne suit pas. Et ce fossé entre théorie et pratique, pour ce qui concerne la deuxième internationale à proprement parler, il est en partie lié à la croissance capitaliste de la Belle Époque, donc 1896-1914, qui fait émerger ce que Lénine va appeler l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire globalement des travailleurs et travailleuses qui sont mieux lotis que la majorité des prolétaires et qui, du coup, va tendre plutôt vers le parlementarisme et le réformisme, avec cette idée que c'est possible de collaborer avec des capitalistes en leur mettant un peu la pression, et que cette collaboration plus pression, ça pourrait suffire à avoir de meilleures conditions de travail et de vie. Donc ce qu'on va voir, c'est que dans la période, les dirigeants des masses ouvrières sont de plus en plus opportunistes, ils sont de plus en plus réformistes, ils contribuent largement à l'idée qu'on peut trouver des points de collaboration avec les capitalistes. Et puis dans le même temps, les États bourgeois, ils se renforcent, et avec eux, l'idéologie dominante. Et dans les faits, on peut dire qu'on a une mise au pas des ouvriers par différents biais, notamment parce qu'ils vont être tous et toutes instruits par l'école laïque et obligatoire. Ils vont être mis au pas aussi par le service militaire qui est lui aussi obligatoire. On voit dans la période que les élections, elles deviennent de plus en plus une fin en soi et de moins en moins le lieu d'une propagande révolutionnaire. Et puis, je le disais, on va voir que les syndicats dans la période sont de plus en plus dans la collaboration avec le patronat. Et si dans les congrès de l'international, les textes condamnaient toujours ces dérives, il n'en reste pas moins que ces condamnations restent molles et purement théoriques. Et puis un des exemples assez caractéristiques de cet écart et de cette absence d'une condamnation virulente dans les faits, elle s'incarne notamment dans le Parti social-démocrate allemand, hein, le SPD, qui dominait largement les congrès et qui sera plus tard caractérisé comme centriste par les révolutionnaires pour ces raisons particulières. Et du coup, là, je voudrais faire un zoom sur le SPD allemand sur ce sujet, parce que l'étude de ce parti, elle est éclairante, parce que premièrement, c'est le parti majoritaire de la Deuxième Internationale. Deuxièmement, il est représentatif de dynamiques qui se sont jouées dans les autres pays membres. Et troisièmement, il est une des raisons de la faillite de la Deuxième Internationale. Alors, le SPD allemand, il est créé, il est créé en gros dans le contexte d'une querelle qu'on appelle la querelle réformiste, et notamment dans un contexte où, face à l'État réactionnaire et parce qu'il y avait peu de bourgeois libéraux, ou en tout cas il n'y avait pas de bourgeoisie libérale forte, il y a eu une réaction, ou en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une cristallisation du progressisme dans le mouvement socialiste qui a été rejoint par de nombreux intellectuels et qui se sont réclamés d'un socialisme scientifique, celui de Marx et de Engels, pour battre en brèche des conceptions plus réformistes, notamment incarnées par Lassalle en Allemagne. Alors, un des fondateurs du Parti social-démocrate, c'est Bernstein, qui a été beaucoup en contact avec Engels, qui même l'a aidé à publier un certain nombre d'ouvrages. Et le parti, donc le SPD, est légalisé en 1891, et va se doter d'un programme à la suite du congrès d'Erfurt qui semble entériner une hégémonie du marxisme et qui a permis d'ailleurs qu'ailleurs en Europe, le marxisme puisse gagner aussi rapidement du terrain. Alors, le programme, il est nettement séparé en une partie théorique qui a été rédigée par Kautsky et qui reprend les concepts marxistes avec comme but final le communisme, et une partie pratique qui est rédigée par Bernstein qui liste une série de revendications immédiates comme la protection des plus démunis, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais déjà, on voit qu'il n'y a pas de méthode transitoire clairement expliquée. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en pratique, le SPD il s'investit beaucoup dans un certain nombre d'activités électorales et d'activités syndicales, avec des succès significatifs, mais qui ont tendu des pièges à la social-démocratie. Et notamment, la question syndicale, elle a été déterminante, puisque c'est le SPD qui avait fait émerger les syndicats dans les années 70-80. Après ça, la situation, elle s'inverse, notamment parce que les syndicats se développent plus rapidement que le parti. Et de plus en plus, les syndicats se retrouvent englués dans une collaboration de classe et ils ont le poids suffisant pour exercer une influence néfaste sur le SPD. Ce qu'on voit aussi dans le même temps, c'est que finalement, des personnes comme Lassalle, qui avaient été dans un premier temps, ou en tout cas on pensait qu'ils avaient été évincés du SPD qui s'était justement formé sur des bases antiréformistes, etc. C'est des voix qui se font quand même toujours entendre dans le parti et avec l'idée d'un socialisme concret qui entend se concentrer sur la coopération avec les forces bourgeoises progressistes pour obtenir des réformes, qui parle de plaire aux classes moyennes et qui parle du fait que le SPD ce soit non pas le parti du prolétariat mais le parti du peuple, et ça c'est des choses qui ont été portées par Bernstein lui-même, même s'il va les abandonner, enfin il va abandonner un certain nombre de positions sous la pression notamment de Bebel et Engels, mais on voit que Bernstein c'est déjà en fait le tenant d'un réformisme et qu'il lui faut des pressions pour revenir finalement à des fondamentaux marxistes. D'ailleurs, plus profondément, hein, Bernstein, il refuse ce qu'il appelle le catastrophisme, c'est-à-dire que la croyance que le capitalisme se dirige par ses contradictions internes vers une crise extrême. En gros, il reconnaît la possibilité de crise périodique, mais il insiste pour dire que le capitalisme s'est développé et va continuer à se développer à travers des facteurs d'adaptation, comme l'utilisation du crédit par exemple, à travers lesquels les crises pourraient être finalement soit indéfiniment reportées, soit atténuées. Et en fait, ces propos-là, ils sont éminemment réformistes et ils vont quand même donner lieu à des critiques, même si au début il y a une grande réticence à affronter Bernstein. Et finalement, celle qui sera la plus lucide là-dedans, c'est Rosa Luxembourg, qui elle est jeune, elle a 27 ans à l'époque, et en fait dans la brochure « Réforme sociale ou révolution » qu'elle écrit en 1898, elle résume le problème du catastrophisme hein, tel que l'appelle Bernstein, et elle écrit la chose suivante. « La théorie révisionniste est confrontée à une alternative. Ou bien la transformation socialiste de la société est la conséquence, comme auparavant, des contradictions internes du système capitaliste, et alors l'évolution du système inclut aussi le développement de ces contradictions, aboutissant nécessairement un jour ou l'autre à un effondrement sous une forme ou sous une autre. En ce cas, même les facteurs d'adaptation sont inefficaces et la théorie de la catastrophe est juste. Ou bien les facteurs d'adaptation sont capables de prévenir réellement l'effondrement du système capitaliste et d'en assurer la survie, donc d'abolir ces contradictions. Et en ce cas, le socialisme cesse d'être une nécessité historique. Il est alors tout ce que l'on veut, sauf le résultat du développement matériel de la société. » Alors, c'est en 1899, lors d'un congrès qui se tient à Hanovre, que les idées de Bernstein elles vont être officiellement condamnées. Pourtant, quand Plekhanov invite le SPD à expulser Bernstein, la proposition est rejetée d'emblée par les dirigeants du parti. Et c'est ça qui est intéressant, puisque Lénine lui-même hein, aura du mal à avoir cette critique lucide au bon moment de ce qui va se passer. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas de réelle volonté hein, parmi les dirigeants du parti, finalement, d'exposer le lien tout à, enfin, le lien pourtant existant entre, entre la théorie révisionniste et la pratique et l'organisation du SPD. En fait, c'est ça, c'est qu'il y avait une volonté d'invisibiliser ces choses-là, tout en ayant conscience que du coup, c'était bien ce qui était en train de se passer, le repli vers une forme de révisionnisme. Dernière chose au sujet du SPD, et après je reviens sur la deuxième internationale, c'est pour marquer le tournant de l'année 1906. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le lien avec les syndicats se fait de plus en plus obscur puisque les syndicats prennent en gros un peu le contrôle du parti, en tout cas ils deviennent plus importants. Eux, ils sont de plus en plus dans la collaboration. Et en fait, en 1906, au congrès du SPD, la direction et les syndicats décident de mettre sur un pied d'égalité les deux organisations, donc les syndicats et le parti. Et dorénavant, les décisions essentielles seront prises en commun. Ce qui veut dire que la bureaucratie syndicale a un pied complet dans les décisions du parti. Ce qu'on va voir, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est qu'en fait, la bureaucratie, elle va tout mettre en œuvre pour freiner les luttes et que ça va devenir un vrai frein pour le parti lui-même. Alors, je reviens à la suite de l'Internationale ouvrière avec le 5e congrès qui est celui de Paris en 1900. C'est pendant ce congrès qu'est créé le Bureau socialiste international, qui sera composé de deux délégués par pays, avec pour but de renforcer les liens entre les pays et de donner plus de solidité à l'organisation. C'est aussi pendant ce congrès que le révisionnisme de droite, tel qu'il avait commencé à se propager, notamment en Allemagne, est rejeté. Et notamment à la faveur de la question du ministérialisme, puisqu'en 1901, lors du premier bureau, c'est l'époque où le socialiste français Mirand est devenu ministre d'un gouvernement bourgeois. Donc le Congrès se positionne là-dessus. Et c'est Kautsky, toujours, qui propose une formule de compromis en disant que la participation au gouvernement de socialistes ne peut pas vraiment être entérinée en tant que telle parce que la lutte des classes interdit toute espèce d'alliance avec une fraction quelconque de la classe capitaliste. Mais il admet quand même des circonstances exceptionnelles qui peuvent rendre nécessaires par endroits des coalitions. Et on voit que c'est déjà ici un pas qui est énorme vers le réformisme, puisque Kautsky lui-même, hein, même si au début il a des positions plus révolutionnaires que celles de Bernstein, il se laissera aussi happer finalement par la dérive révisionniste de celui-ci. Donc les scissions sont déjà latentes au sein de l'Internationale ouvrière, même si les textes, encore une fois, restent plus ou moins révolutionnaires. Mais elles vont éclater ces scissions plus radicalement à partir de 1903 dans plusieurs des pays membres. Alors d'abord cette même année en Russie, puisque c'est cette année-là que le parti va se diviser entre les mencheviks et les bolcheviks. Il va y avoir la même division en Bulgarie la même année entre les larges et les étroits. En 1909, il y aura une scission en Hollande. Et du coup, elles vont se propager, mais en fait à ce stade, donc jusqu'en 1909, même si ces scissions, elles sont bien perçues comme le symptôme d'un problème et a posteriori on peut dire que c'était le symptôme du problème qui va provoquer la fin de l'Internationale, pour autant elles ne provoquent pas de vague de départ et notamment Rosa Luxembourg qui pourtant a déjà largement dénoncé les dérives révisionnistes en Allemagne ou encore Lénine qui est membre de l'Internationale depuis 1995, il considère encore que le révisionnisme est un courant qui doit être et qui peut être combattu. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des textes théoriques qui restent marxistes, qui restent lutte des classes, qui restent révolutionnaires, mais on a une pratique qui est de plus en plus révisionniste, pardon, et Rosa Luxembourg, comme Lénine, dans un premier temps, se laisse un peu duper par ça et pense que qu'il est possible en fait de lutter contre ça, que c'est encore un ennemi à abattre et qu'on peut abattre, alors qu'en réalité... pas du tout. Le 6e congrès, il a lieu en 1904 et c'est le congrès d'Amsterdam qui est intéressant parce que non seulement il insiste sur le fait qu'il faut condamner les tentatives révisionnistes, mais il va aussi ouvrir la voie à la question coloniale et aux divisions qu'elle va faire naître. Et ces divisions, elles seront plus apparentes au congrès suivant, qui est le congrès de Stuttgart et qui a lieu en 1907, et qui traite pleinement de ces questions coloniales. Les révoltes coloniales à l'époque, elles manifestent une résistance forte des peuples opprimés. Et pour autant, on va avoir en gros au sein du congrès trois positions qui vont s'affronter. Celle du député socialiste allemand David, qui voit dans l'idée colonisatrice un élément du but universel des civilisations poursuivies par le mouvement socialiste. Au centre, on a plutôt des positions comme celle de Jaurès et de Bernstein qui vont dénoncer en gros le colonialisme et la barbarie qui l'engendre, même si le système colonial en soi pourrait permettre des progrès dans des pays dits encore sauvages. Et puis à gauche, entre guillemets, on va avoir Kautsky qui démontre que le colonialisme soi-disant civilisateur entretient les pays opprimés dans le sous-développement. Alors c'est intéressant, et c'est pas annexe, et ça renvoie à un des axes que j'avais développé, enfin que j'avais évoqué dans l'introduction, qui est celui du nationalisme, puisque ne pas condamner le colonialisme, c'est forcément se compromettre dans le nationalisme et se rallier à l'œuvre civilisatrice des États, autrement dit se rallier à son propre État national et à la mission qu'il pourrait avoir. Et on voit hein, le repartage de la domination mondiale, ce sera un enjeu central de la guerre à venir, là on est en 1907. Et ce qu'on voit aussi, c'est que peu à peu, les partis socialistes vont développer, sous la pression politique du nationalisme ambiant, une course aux colonies et aux armements, avec une tendance impérialiste démocratique. Le deuxième point intéressant du congrès de Stuttgart, c'est la commission qui s'y est tenue concernant spécifiquement les questions des travailleuses et notamment du droit de vote des femmes. Et voilà, en fait, le contexte, c'est notamment que en Autriche, il n'y avait pas encore de droit de vote direct et secret. Du coup, les hommes se battaient déjà pour avoir ce droit-là, et du coup, ils avaient une position qui était de dire que, en gros, déjà, il fallait se battre pour ça, et que du coup, ils ne pouvaient pas inclure en plus la question du droit de vote des femmes, parce que ça ferait trop de revendications et qu'ils n'arriveraient pas à tout obtenir. Alors, ils se trouvent minorisés complètement dans le Congrès, et ils seront notamment vivement critiqués par Clara Zetkin, ainsi que la majorité des délégués. Et puis, en 1907, c'est aussi l'année où va se tenir la première conférence internationale des femmes socialistes. Et il y aura un bureau international hein, qui va être formé, à la tête duquel on va trouver justement Clara Zetkin, qui va porter la question notamment du droit de vote des femmes. Alors, le 8e congrès, c'est le congrès de Copenhague en 1910. Ce congrès, il est intéressant parce qu'il va précéder hein, le fameux congrès de Bâle qui prend une résolution sur la guerre. Et déjà, il y est question de la guerre. Le congrès réaffirme que les guerres ne sont causées que par le capitalisme et particulièrement par la concurrence économique internationale des États capitalistes sur le marché du monde. Donc la seule solution, c'est la révolution socialiste, parce que la chute du capitalisme signifie la paix universelle. Et cette déclaration-là, elle est d'autant plus intéressante que peu de temps après, la guerre éclate dans les Balkans, hein, c'est 1912, région où l'Autriche et la Russie sont en concurrence. L'Autriche, elle protège plutôt la Bulgarie, alors que la Russie va soutenir plutôt la Serbie. Le bureau de l'International va appeler ses sections à organiser en novembre 1912, le dimanche 17 novembre, une démonstration de force des travailleurs contre l'extension de la guerre balkanique. Et c'est là qu'on va trouver des grandes manifestations qui vont se dérouler à Londres, à Berlin, à Milan, Rome, Strasbourg, qui est en territoire allemand à l'époque, qui vont être le prélude hein, du congrès extraordinaire de Bâle qui va se tenir les 24 et 25 novembre suivants et qui va faire voter à l'unanimité un manifeste qui s'adresse tant aux travailleurs qu'aux dirigeants et qui dit notamment la chose suivante. Le Congrès demande aux travailleurs de tous les pays d'opposer à l'impérialisme capitaliste la force de la solidarité internationale du prolétariat. Il avertit les classes dirigeantes de tous les pays de ne pas accroître encore par des actions de guerre la misère infligée aux masses par le mode de production capitaliste. Que les gouvernements sachent bien que dans l'état actuel de l'Europe et dans la disposition d'esprit de la classe ouvrière, ils ne pourraient, sans péril pour eux-mêmes, déchaîner la guerre. Donc c'est le fameux appel « guerre à la guerre » qui reste un peu dans toutes les mémoires comme un moment incroyable de l'histoire. Il y a des écrivains qui le racontent comme étant vraiment un moment très fort, ça a été voté à l'unanimité, etc. Et donc la chute sera d'autant plus dure après, et notamment avec le début de la guerre en 1914 et évidemment l'Union sacrée. Donc c'est ce début de la guerre qui va sonner la faillite de la Seconde Internationale. Donc le 28 juin 14, l'héritier du trône austro-hongrois est assassiné par un nationaliste serbe à Sarajevo. Alors que les meetings pour la paix se multiplient dans toute l'Europe, la CGT française organise une manifestation à Paris d'ampleur. Jaurès appelle le prolétariat à intervenir pour peser sur les gouvernements. Mais malgré tout, le ton général dans les directions des partis est beaucoup plus hésitant. Et notamment, un des symptômes de ça, c'est qu'un congrès international extraordinaire sera convoqué à Paris pour le 9 août et il n'aura jamais lieu. Donc le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, la France décrète la mobilisation générale et la guerre va commencer et avec elle la déchéance du coup de la deuxième internationale. Le 3 août, les députés socialistes allemands vont voter les crédits de guerre à 78 pour contre 14 contre. Donc le 4 août, tous votent les crédits au Reichstag. La minorité va accepter de subir la discipline du groupe pour tenter de sauver le parti. Ce même 4 août, les socialistes français font de même et l'Assemblée nationale peut donc voter les crédits de guerre à l'unanimité. Alors le 31 juillet, Jaurès avait été assassiné par le nationaliste vilain. Et le jour de ses obsèques, il y a un rapprochement CGT-SFIO que Jaurès avait appelé de ses voeux de son vivant. Mais ce rapprochement-là, c'est finalement marque un assassinat politique de Jaurès puisque sur sa tombe, le secrétaire général de la CGT, c'est Léon Jouot, appelle à l'union sacrée et va donc tomber dans les bras des dirigeants de la SFIO qui l'applaudissent. Donc ce scénario-là, il s'impose partout en Europe. Certains partis vont même jusqu'à entrer dans des gouvernements d'union sacrée. En France, le 26 août, les socialistes Marcel Samba et Jules Guedt deviennent ministres. Et puis, voilà, un peu partout, la majorité des cadres dirigeants des partis de l'Internationale ouvrière se rallient à la guerre et s'unissent tous les uns contre les autres. Et même les tendances dites les plus gauchistes, par exemple de la SFIO française, comme celle du marxiste Jules Guedt, ou alors du communard Vaillant, même Kautsky en Allemagne, vont se rallier et Kautsky écrira « Tous ont le droit et le devoir de défendre leur patrie. L'internationalisme véritable consiste à reconnaître ce droit aux socialistes de toutes les nations, y compris les nations en guerre contre la mienne. » Donc voilà, ici on a clairement le deuxième axe du coup qu'on a vu, qui est celui du nationalisme versus internationalisme, et pourquoi est-ce que finalement là l'international elle meurt, parce qu'il y a un repli nationaliste qui montre que dès lors qu'on est replié sur des questions nationales, on a beaucoup de mal du coup à penser au niveau international, et c'est ce qui va faire la faillite de cette seconde internationale. Alors, il y a quand même des militants qui sont fidèles à l'internationalisme et au pacifisme et qui vont dénoncer finalement la majorité, qui vont continuer à militer contre la guerre, ce qui leur vaut souvent d'être exclus de la deuxième internationale. Ça va être le cas par exemple de Rosa Luxembourg. Et de fait, on peut dire que l'internationale, elle cesse d'exister pendant la guerre, même s'il y a toujours ces idées qu'il faudra la remettre en place ou en tout cas faire comme si de rien n'était quand le conflit sera fini. Alors il y a deux conférences qui ont lieu pendant le conflit, celle de Zimmerwald et celle de Kintal. qui ont réuni les militants de la gauche, de l'internationale, parfois ceux qui avaient été exclus, pour s'opposer à la guerre et aux dirigeants socialistes qui la soutiennent. Mais même parmi les Immerwaldiens, on voit que les positions, elles vont de la gauche révolutionnaire au centrisme pacifiste et que c'est pas gagné. Et puis finalement, la scission, en tout cas ce qui va acter un clivage de plus, hein, ça va être la révolution russe de 1917. Puisque la révolution, elle va enthousiasmer de larges masses ouvrières, mais elle va être globalement condamnée par les directions dont on peut dire déjà maintenant qu'elles sont réformistes. En 19, les dirigeants de la Deuxième Internationale se réunissent à la conférence de Berne. Les délégués de l'aile droite et du centre s'affrontent sur la question de la Russie. Et finalement, l'aile droite va l'emporter va condamner la Russie et des méthodes de dictature. En réponse directe à cette conférence, on va trouver le congrès de fondation de la Troisième Internationale, donc avec plutôt ceux de la gauche, qui aura lieu en mars 1919. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que des nombreux socialistes donc, quittent la Deuxième Internationale pour rallier la Troisième Internationale, l'internationale communiste, et c'est à partir de ce moment qu'on va distinguer les communistes des socialistes. Et pour terminer rapidement, puisque j'avais dit en intro que du coup la deuxième internationale, pour autant, elle ne s'achève pas avec l'avènement de la troisième, elle continue, et notamment, elle continue avec des courants qui veulent rompre avec les social-chauvins, mais veulent quand même garder leur distance avec les bolcheviks. C'est pour ça qu'ils ne se rallient pas à la Troisième Internationale. Et donc, ils vont former l'Union des partis socialistes pour l'action internationale, connue sous le nom de l'Union de Vienne. Et en 1923, les derniers partis membres de la Deuxième Internationale vont se lier avec ceux de l'Union de Vienne pour former l'Internationale ouvrière socialiste, qui va se reformer, en fait elle va de nouveau se dissoudre pendant la Seconde Guerre mondiale et va se reformer en 1951 sous le nom de l'Internationale socialiste, qui existe encore aujourd'hui et qui a ratissé relativement large et continué à pourrir, puisqu'elle a compris dans ses partis membres non seulement beaucoup beaucoup de réformistes, mais aussi des dictatures comme celle du Rassemblement constitutionnel démocratique de Tunisie, avec à sa tête Ben Ali, qui sera exclu le 18 janvier 2011 après la révolution tunisienne. Alors, en conclusion, donc cette seconde internationale, elle est marquée par la différence entre révolution et marxisme d'un côté et réforme et opportunisme de l'autre. Entre la distinction entre des textes qui sont restés théoriquement très marxistes et une pratique qui a été celle du compromis et du centrisme et du réformisme, opposition qui se lise hein, dans la conclusion de Lénine dans la brochure La faillite de la Seconde Internationale que je citais déjà en intro, et donc conclusion dans laquelle Lénine écrit la chose suivante: la vieille théorie présentant l'opportunisme comme une nuance légitime au sein d'un parti unique étranger aux extrêmes, est aujourd'hui la pire mystification des ouvriers et la pire entrave du mouvement ouvrier. L'opportunisme ouvertement affirmé, qui répugne d'emblée à la masse ouvrière, est moins terrible et moins nocif que cette théorie du juste milieu, qui justifie la pratique opportuniste par des vocables marxistes, qui entend démontrer par toute une série de sophismes l'inopportunité des actions révolutionnaires.